Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast du blog libérersonpiano.com. Je suis Casimir Costea et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la mémoire conceptuelle au piano, pourquoi et comment la développer. Avant de parler de la mémoire conceptuelle particulièrement, on va rappeler qu'il y a, si, je ne sais pas si vous le savez, mais quatre types de mémoire que l'on distingue en général pour le pianiste. On a la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire kinesthésique et la mémoire conceptuelle. Donc la mémoire auditive, c'est celle qui paraît le plus évidente en tant que musicien, c'est-à-dire le fait de se souvenir d'une mélodie, d'avoir en mémoire le morceau qu'on aime ou la chanson qu'on veut apprendre. La mémoire kinesthésique, c'est la mémoire du corps, la mémoire physique. En fait, la plupart du temps, quand on ne sait pas vraiment travailler sa mémoire et qu'on attend qu'elle vienne d'elle-même, on travaille la mémoire kinesthésique sans le savoir. C'est-à-dire que par la répétition, on habitue notre corps à certains mouvements, certains réflexes qui, inconsciemment, s'intègrent petit à petit. Le problème avec ce type de mémoire, c'est que d'une part, la plupart du temps, on ne la travaille pas consciemment, c'est-à-dire qu'on répète sans réfléchir, entre guillemets, sans porter particulièrement conscience à notre geste et à notre mouvement. Et d'autre part, c'est qu'elle est très insuffisante pour construire une mémoire solide de notre morceau. Donc, on a la mémoire auditive, la mémoire kinesthésique qui est celle de la répétition des mouvements et des gestes, la mémoire physique, la mémoire visuelle, celle qui se fait aussi inconsciemment, mais que l'on peut également travailler consciemment, et enfin la fameuse mémoire conceptuelle. Alors, la mémoire conceptuelle, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, c'est une des seules mémoires parmi les quatre que j'ai citées qui ne peut pas vraiment se travailler inconsciemment. C'est-à-dire que les autres types de mémoire, on peut, sans faire d'efforts particuliers, développer par la répétition des gestes, par exemple, une certaine mémoire kinesthésique, par la répétition d'une chanson intérieure ou d'une mélodie intérieure, une mémoire auditive, et par la répétition de notre morceau en regardant notre clavier, développer une certaine mémoire visuelle, mais tout ça sans forcément s'en rendre compte. Or, toutes ces mémoires sont. Il n'y en a pas une qui est forcément meilleure qu'une autre. D'abord, elles sont complémentaires et elles fonctionnent au mieux quand elles sont combinées. Mais surtout, l'intérêt, c'est de développer la conscience de ces mémoires-là, de les travailler consciemment. Et la mémoire conceptuelle, elle force à développer une certaine conscience. Pourquoi? Parce que la mémoire conceptuelle, c'est la mémoire, on va dire, en gros, de la compréhension, c'est-à-dire c'est celle qui permet de faire des liens logiques entre les choses, de relier des éléments entre eux. Alors moi je vais vous dire pourquoi, selon moi, non seulement la mémoire conceptuelle elle est essentielle pour le travail de toutes les autres mémoires, mais elle est même essentielle dans votre travail au piano, peu importe que vous ayez l'habitude de travailler la mémoire ou pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous pouvez me dire que c'est pas l'érudition ou la culture musicale qui fait la capacité ou les qualités d'un pianiste au niveau de la pratique. C'est vrai, on peut bien sûr améliorer notre interprétation et notre musicalité avec des connaissances théoriques pour mieux comprendre la musique, quoique c'est pas forcément indispensable, ça peut être inné et instinctif. Mais on voit pas forcément tout de suite le lien entre le concept, la mémoire conceptuelle qui renvoie donc au terme de concept, c'est-à-dire à la compréhension intellectuelle, avec le jeu qui est pratique, puisque la plupart du temps, en tant que pianiste, on a surtout l'impression de ne pas avoir la bonne aptitude, d'être trop lent dans notre enchaînement, d'être maladroit, etc. Et donc, on pense que que ça n'a rien à voir avec le côté conceptuel. Là où je pense qu'on se trompe amèrement quand on pense comme ça, c'est que la mémoire conceptuelle va permettre de développer beaucoup plus tous les autres types de mémoire. Un exemple très simple, c'est qu'à partir du moment où on connaît certains accords et qu'on a la possibilité de analyser la partition, même sommairement en termes d'harmonie et d'accords, on peut sur son clavier travailler la visualisation de ces accords. Donc notre compréhension, notre analyse harmonique par exemple, qui peut être seulement intellectuelle au départ, va permettre de développer une mémoire visuelle des notes qui va être liée à une mémoire conceptuelle puisque groupée selon un certain sens logique. C'est en fait le développement de cette logique musicale qui va vous permettre d'avoir des repères stables à partir duquel vous allez pouvoir entraîner votre mémoire visuelle, votre mémoire kinesthésique et votre mémoire auditive. La plupart du temps, quand on pense avoir une mauvaise mémoire, c'est juste qu'on répète, on répète, on répète et on attend que le morceau entre. C'est une mauvaise démarche parce qu'encore une fois, la base sur laquelle devraient reposer les autres mémoires, c'est la mémoire conceptuelle. Prenons un exemple. Imaginons un passage dans un de vos morceaux que vous avez du mal à réussir, vous manquez de fluidité, vous avez toujours des hésitations. Bon, sans parler forcément d'un exemple de virtuosité ou de grands problèmes techniques, simplement un endroit où vous cafouillez et vous hésitez. L'erreur est souvent de penser que ça vient d'une difficulté physique, et donc de répéter jusqu'à ce qu'on se dise que notre main va finir par y arriver ou notre doigt va finir par se poser sur la bonne touche. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait qu'on ralentit, qu'on se trompe, qu'on hésite, qu'on tombe au mauvais endroit? C'est que on ne sait pas exactement où va aller notre doigt, où va aller notre main, et qu'on ne le sait pas suffisamment à l'avance. Je ne suis pas le premier à le dire, évidemment, mais nos mains sont dirigées par notre pensée. Si on ne sait pas suffisamment clairement et à l'avance où va se diriger notre main sur le clavier, il est évident qu'à moins d'un coup de chance, ou effectivement d'une répétition très très nombreuse de fois et inconsciente et instable, on ne réussira pas à se déplacer correctement. Or, la mémoire conceptuelle permet d'organiser le flux et le nombre des notes, et dans une logique qui permet ensuite de travailler l'anticipation de nos mouvements, l'anticipation de nos déplacements, et également une meilleure connaissance de notre clavier. Effectivement, visuellement, c'est la même chose, c'est une question d'organisation. Si on voit juste toutes les notes, les unes par-dessus les autres, on aura du mal en général à bien distinguer la distance qui nous sépare d'une note à l'autre. Tout ça est assez flou et pas clair. La mémoire conceptuelle permet d'organiser de manière plus cohérente chaque chose visuelle, auditive, et également de travailler le mouvement. Donc la mémoire kinesthésique, parce que dans un phrasé, pour créer plus de musicalité, bien sûr que la répétition et le travail du mouvement est important. Mais de la même façon, si le travail du mouvement se fait sans connaissance précise, sans conscience de où je vais et d'où je pars, eh bien ce travail, il se fait aux dépens des autres mémoires, en compensation avec une absence de connaissances conceptuelles, compensation d'anticipation visuelle, et donc dans ces cas-là, la mémoire kinesthésique est déplacée de son rôle premier et en général donne de résultats assez médiocres. Donc voilà pourquoi, selon moi, la mémoire conceptuelle, elle est essentielle à tous les autres types de mémoire. Parmi les quatre mémoires, elles sont toutes très intéressantes et enrichissantes, même la mémoire kinesthésique qui malheureusement est souvent mal travaillée, parce que inconsciemment et pour compenser les autres. Mais avec une bonne mémoire conceptuelle, en sachant bien où on va, d'où on part sur le clavier, pourquoi, en groupant les notes en accords par exemple, en ayant une mémoire visuelle, en travaillant la visualisation sur notre clavier, dans notre tête, eh bien, on peut à ce moment-là travailler la mémoire kinesthésique pour vraiment intégrer un geste, mais dans lequel on pense également notre point d'arrivée, notre point de départ, clairement chaque note que l'on va jouer, quelle distance les sépare l'une de l'autre, etc. Maintenant, je voudrais aborder un autre point. J'ai dit que je considérais que la mémoire conceptuelle était essentielle pour les autres types de mémoire, mais aussi pour ceux qui pensent ne pas travailler la mémoire au piano. Par exemple, prenons le cas des pianistes qui déchiffrent beaucoup, c'est-à-dire qui jouent avec partition. J'ai rencontré parmi mes élèves souvent des gens qui me disent non, mais moi, j'ai pas de mémoire, j'ai pas une bonne mémoire au piano, donc je me débrouille sans, c'est pas nécessaire. Et après tout, pourquoi à tout prix travailler la mémoire? Alors, c'est une bonne question. On peut se dire que c'est pas forcément indispensable de connaître ses pièces par cœur. Puis on peut avoir même des arguments ou des réponses historiques comme quoi la musique n'a pas toujours été jouée par cœur, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand on y pense, si on fait attention, si vous faites attention, par exemple, quand vous travaillez votre déchiffrage, il y a des passages en général que vous réussissez mieux que d'autres. dans le déchiffrage. Bon. Mais en général, ce qui se passe dans les passages que vous réussissez bien, pourquoi vous les réussissez bien? C'est parce que vous avez développé, sans le savoir, une bonne mémoire de ce passage-là. Peut-être probablement pas une mémoire conceptuelle, mais vous avez pu développer une mémoire visuelle, par exemple. C'est-à-dire que pour certains déplacements, pour certains intervalles de notes, pour certains passages, vous avez pu développer, sans le savoir, sans vous en rendre compte, une mémoire visuelle de votre clavier au piano qui correspond à la partition, parce que ça vous a paru plus naturel à cet endroit-là qu'à une autre. Ou encore, là aussi, une mémoire kinesthésique, parce que la position de la main était facile, était plus naturelle. Bon, donc en fait, ce qui s'est passé, vous avez réussi votre déchiffrage à un endroit parce que vous avez développé un certain type de mémoire, pas forcément consciemment. Donc, si vous voulez améliorer votre déchiffrage aux autres endroits, bah, je vous le donne dans le mille, faudra développer également certains types de mémoire, parce que c'est toujours le point où je veux en venir, c'est que quoi que vous fassiez au piano, ça a un rapport avec la mémoire. Ça peut avoir avec la mémoire visuelle, avec la mémoire auditive, avec la mémoire kinesthésique ou la mémoire conceptuelle, ou la plupart du temps un mélange de toutes ces mémoires, mais c'est de la mémoire de toute façon. Quand vous apprenez, quand vous intégrez des nouvelles informations, vous faites travailler votre mémoire tout simplement. Donc pas de panique, hein, c'est pas pour dire que vous êtes obligé de travailler la mémoire, c'est juste pour vous faire voir la mémoire un peu différemment, parce que souvent certaines personnes qui ont accepté l'idée qu'ils avaient une mauvaise mémoire, ce qui n'est pas vrai, parce que c'est juste un manque d'entraînement et surtout un manque de conscience. Quand on ne sait pas exactement où se place la mémoire et qu'on attend qu'elle vienne d'elle-même, effectivement, au bout d'un moment, quand elle vient pas, on peut non seulement être assez frustré et puis se dire que bah c'est pas pour nous et ne pas comprendre comment faire. Mais en prenant l'habitude d'analyser même sommairement nos morceaux et de utiliser ces analyses-là pour travailler la reconstruction logique de notre morceau visuel, baser notre mémoire kinesthésique, c'est-à-dire notre répétition des gestes en gardant en tête nos repères visuels et logiques, et ben petit à petit, on construit une connaissance du clavier et du piano qui n'est pas simplement les restes, les résidus d'une répétition d'un certain nombre de reprises qui nous donnerait comme ça par magie une valeur et un niveau en tant que pianiste et musicien. Est-ce qu'on a la chance d'avoir une mémoire qui tombe rapidement ou lentement, etc. Donc voilà, c'est fini pour ce premier podcast. Je fais un petit résumé pour finir. J'espère avoir pas été trop brouillon. C'est la première fois que je m'exerce à ce type de contenu. Donc si je devais résumer, il y a trois points qui me semblent essentiels dans cette histoire de mémoire conceptuelle. D'abord, la distinction entre les quatre types de mémoire du pianiste et se dire que la mémoire conceptuelle est vraiment un socle sur lequel les autres mémoires peuvent se reposer et surtout se construire consciemment et donc se développer avec davantage de force et d'efficacité. Le deuxième point, c'est donc de se rendre compte qu'en réalité, à chaque fois qu'on réussit vraiment quelque chose au piano, que ce soit en déchiffrage ou peu importe dans quel contexte, on utilise en réalité une mémoire, un type de mémoire, et pas seulement quand on fait l'exercice conscient de vouloir reproduire un morceau par cœur. C'est pas uniquement quand on travaille notre par cœur à la fin d'un morceau, quand on essaie de le rejouer du début à la fin, qu'on travaille la mémoire. En fait, c'est tout le temps. Et plus on le fait consciemment, et bien plus on va le faire de manière efficace. Et pour ça, la mémoire conceptuelle aide beaucoup. Et enfin, le troisième point qui est relié au précédent, c'est celui de reconsidérer et re-questionner cette fameuse croyance que certaines personnes ont une bonne mémoire au piano et d'autres non. Et la plupart du temps, les gens que moi, en tout cas, j'ai rencontrés qui pensaient avoir une mauvaise mémoire au piano sont des gens qui n'avaient pas du tout connaissance de ces types de mémoire et de comment elles fonctionnaient et qui pensaient simplement que la mémoire arrivait par magie, entre guillemets, après un certain nombre de répétitions. Et souvent, même quand elle arrive au bout d'un certain temps, qui peut être assez ennuyeux d'ailleurs, eh bien, elle ne tient pas quand on répète devant quelqu'un, en situation de stress ou quoi. Cette fameuse mémoire inconsciente, eh bien, elle dégringole beaucoup plus facilement. Et oui, parce qu'elle n'est pas basée sur la conscience, mais sur une répétition mécanique. Du coup, le moindre changement intérieur, comme la pulsation de notre cœur qui bat plus vite à cause d'un stress, rien que ça, bah, ça va changer, ça va altérer cette mémoire kinesthésique. encore une fois, parce qu'elle n'aura pas été travaillée consciemment. Si elle est organisée en groupe logique qui fait du sens dans notre tête, eh bien cette mémoire kinesthésique, elle va pouvoir elle aussi se déployer différemment. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur et de l'intérêt pour votre jeu au piano. Vous pouvez également aller voir l'article que j'ai écrit sur le blog libérersonpiano.com sur la mémorisation au piano, où je parle de ces quatre types de mémoire et aussi où je développe d'autres choses comme le fait que la mémoire est reconstructive en me basant sur les études d'un psychologue spécialisé dans l'éducation américain qui a fait des tests auprès des étudiants pour savoir à quel moment ils mémorisaient le mieux leurs devoirs. Donc voilà, c'est un sujet passionnant, surtout encore une fois, comme je le dis et comme je le pense, que la mémoire en fait est partout et pas seulement, c'est pas une option en fait. Voilà, bon travail, bon piano, et puis je vous dis à bientôt en podcast ou en vidéo sur ma chaîne YouTube ou encore sur le blog pour des articles sur libérersonpiano.com.